Couture dans le mid.
J'aime pas ça.
Avec Pierre Couture et Frank Fournier.
Le deux de misère.
Radio X.
Ouais, sondage ce matin politique. Est-ce que Québec solidaire pourrait être rayé de la carte?
Ben, c'est loin d'être impossible.
Ça ressemble à ça, là.
Quoi qu'ils ont des châteaux, qui ont quand même des châteaux forts, pareil, dans quoi? Dans Gouin.
Ouais.
Sainte-Marie-Saint-Jacques.
Ouais.
Mais rayé, je sais pas, mais il pourrait rester pas grand-chose.
Ben, regarde, on va en parler avec Rodolphe.
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Rodolphe, comment vas-tu?
Bonjour Pierre, bonjour Frank. Écoute, je vais bien. Puis oui, on a des sondages à se mettre sous la dent.
Hey, Québec solidaire, est-ce qu'il pourrait être rayé de la carte? C'est-tu possible, ça?
Ben écoute, je crois que ça va beaucoup se jouer chez vous, en fait, dans votre région de Québec, parce que là, on a à la fois Étienne Gramont, le député de Québec solidaire, vient d'avoir tout un candidat qui va se présenter contre lui en la personne de Vincent Marissal. Puis on a aussi appris que Claude Villeneuve va se présenter contre Sol Zanetti dans Jean Lesage. Donc tout ça, c'est deux sièges de QS avec comme ça des candidats qui vont aller pour le PQ, qui vont aller contre eux. Donc ça va beaucoup se jouer, je pense, l'avenir de QS de votre bord. Parce que écoute, moi je viens de Sherbrooke, là j'habite Sherbrooke, je veux dire, Christine Labrie se présente pas ici, se représente pas à Sherbrooke. On va voir si QS va réussir à conserver ce siège. Mais sinon, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont juste rester dans leur petit coin à Montréal, avec Alexandre Boulris, par exemple. Alexandre Boulris, et je dois le mentionner, qui continue, et ça, j'en peux plus, qui continue à toucher un salaire de député fédéral encore aujourd'hui, tandis qu'on sait très bien qu'il est en train de faire campagne tout l'été.
Écoute, là, je regarde les sondages ce matin. Madame Fréchette est en forte remontée depuis quelques sondages. Elle a vient à côté Charles Milliard. Charles Milliard n'est pas là du tout, est absent sur toute la ligne. Et le PQ fait du surplace.
Oui, ben écoute, si tu regardes un tout petit peu les défis, en fait, que les partis politiques ont, oui, Madame Fréchette ou Équipe Fréchette ou la CAQ ou appelez-les comme tu veux, sont en train de remonter. Ils ont gagné 3 points, mais ils ont quand même un problème, la CAQ, c'est qu'ils sont faibles chez les 18-34. Si tu regardes les chiffres, là, ils sont à 10% chez les 18-34. C'est peut-être pas pour rien qu'ils ont comme ça voulu recruter Olivier Primo. C'est un tout petit peu parce que cette donnée, elle est pas bonne. Concernant Éric Duhaime, oui, il est en train de monter, mais il y a quand même aussi un problème, en tout cas chez les femmes et chez les 55 ans et plus. Ça doit être le défi d'Éric Duhaime d'aller chercher le vote des 55 ans et plus. Et en tout cas, il y a un déficit sur le vote des femmes. Parti libéral, ce qui lui fait le plus mal, encore une fois, c'est le vote francophone. Il est à 14.
Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. À l'est de Montréal, là, il n'est pas capable de percer la muraille.
Oui, puis même dans le reste du Québec, écoute, tu vois qu'il y a 13% dans le reste du Québec. Donc, il y a vraiment un problème, en tout cas, pour le Parti libéral. Oui, ils vont gagner des sièges parce que, honnêtement, la dernière fois, Dominique Anglade, elle a fait le pire résultat de l'histoire du Parti libéral du Québec. Ils étaient à peu près à 20 sièges. Oui, ils sont capables d'aller chercher comme ça des sièges à gauche, à droite, mais ils sont pas encore, en tout cas, compétitifs. Puis bon, je veux bien qu'ils se battaient hier pour tous prendre leur photo avec M. Carney. Madame Fréchette et Charles Billard aussi qui a fait une photo en disant « Regardez, moi, je suis allé dîner avec lui ce midi. » Mais en tout cas, pour le Parti libéral, on va voir, mais il va falloir qu'ils se mettent en deuxième là en termes de vitesse parce que pour l'instant, ils ont perdu un point puis ils sont à 23. 23-23, OK, il y a la marge d'erreur, mais ils sont à peu près au même niveau que la CAQ en ce moment.
Comment expliquer? Parce que tu parlais des groupes d'âge, Rodolphe, oui. Tu as totalement raison quand on regarde le 55 ans et plus, puis même quand on va dans les palaces, eux, ils séparent avec le 65 et plus. Oui. Il y a un fossé, il y a une solitude avec le reste du Québec. Parce que si on regarde, le PQ est premier chez les jeunes, ils sont premiers chez les 35-54. Le PCQ fait très bien dans le 35-54 en étant deuxième à 23%. Mais chez les 55 ans et plus, eux, on dirait qu'ils n'ont pas eu le mémo qu'on a 5 partis. Il y en a juste toujours 3 auxquels ils remettent leur vote. QS est complètement oblitéré chez les 55 ans et plus. Les conservateurs ne font pas très bien non plus. Comment on fait pour les rejoindre?
Ben, écoute, il y a deux éléments, en fait. Le défi des partis, ça va être, un, de ne pas avoir la campagne que j'appelle de monosujet. Ça veut dire qu'on va parler que des tarifs pendant 30 jours de campagne. Puis à chaque fois, on va être en réaction à ce qui se passe aux États-Unis. Ça va être le défi de tous les chefs. Puis quand tu me parles spécifiquement des 55 ans et plus, la CAQ et le défi de la CAQ, du Parti libéral, puis d'Éric Duhaime, c'est d'essayer d'avoir, de coaliser ce vote, en tout cas fédéraliste, autonomiste, nationaliste, appelle-le comme tu veux, ou plus facilement le vote anti-souveraineté. Puis là, actuellement, on voit que la CAQ arrive à coaliser ce vote anti-souveraineté contre le Parti québécois, et c'est pour ça qu'ils montent dans les sondages. Et c'est surtout les 55 ans et plus, les boomers, etc., qui, pour l'instant, bien, sont en train de remettre leur vote à Mme Fréchette parce qu'ils ne veulent pas un référendum. C'est un peu comme ça que je l'analyse. D'où le défi à la fois d'Éric Duhaime, mais surtout de M. Milliard, d'être vu comme la personne qui peut coaliser ce vote fédéraliste. Mais en ce moment, les gens font plus confiance, en tout cas les personnes de plus que 55 ans, à Mme Fréchette qu'à M. Milliard.
Mais ce sont des swingers, ces voteurs-là. Là. C'est-à-dire que quand on regarde, si on remonte quelques mois en arrière, moi j'ai des sondages en tête où c'est Charles Milliard qui est premier dans le 55 et plus, d'autres c'est PSPP. Donc c'est un électorat qui est peu fidèle.
Volatile.
C'est volatile.
44% actuellement, selon Léger, des gens n'ont pas encore fait leur choix.
Hey, c'est beaucoup, là.
Ben, c'est pour ça, oui. Actuellement, là, avec une donnée de 44%, tout peut arriver en termes de... Tu peux vraiment voir des gros changements. Puis le point le plus important qui va arriver, c'est les débats. Là, ça va vraiment être les débats qui vont vraiment, je pense, à mon avis, au-delà des candidatures vedettes, au-delà de certains éléments. Oui, il va y avoir des courses à deux, des courses à trois, des courses à quatre dans certaines circonscriptions, mais je pense que ça va être beaucoup une campagne de perception, de slogan en termes de perception, et ça va être beaucoup dans les débats.
Pour le Parti conservateur du Québec, c'est excellent. Là, tu pars la course à 16, tu viens de monter de 3 points, comme Mme Fréchette. C'est pour Éric Duhaime, c'est un pain béni, là.
Oui, c'est sûr que ça lui donne un élan. C'est sûr que juste journalistiquement parlant, Éric Duhaime fait partie de la conversation.
Oui.
Monsieur Duhaime arrive comme ça, va avoir son avis, va avoir une couverture médiatique qu'il n'avait pas eue, par exemple, à la dernière élection. Donc, pour lui, juste d'avoir comme ça ce 16%, c'est naturel maintenant qu'on va demander et qu'Éric Duhaime va avoir une couverture médiatique. On va lui demander des commentaires et il va faire partie de la couverture. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et pour Québec solidaire, écoute, des fois, tu te demandes, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ce qu'ils pensent quand tu regardes ces chiffres-là?
Oui, puis ce qui explique que Vincent Marissal a quitté le navire, puis là, il se retrouve avec le PQ. Ça, parachuté comme ça, c'est-tu bon, c'est pas bon? Comment tu vois ça?
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que une des explications de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de dire « Hey, il habite à Taschereau. » Oui, je veux bien qu'il habite à Taschereau. Il est député, puis il habite à Taschereau quand il y a l'Assemblée nationale. C'est comme si moi, je te dis « Ah, ben moi, je peux me présenter à Ottawa. J'ai travaillé, j'ai habité à Ottawa parce que j'avais le Parlement fédéral.
Ben »
C'est
ouais.
comme la logique de Paul Saint-Pierre Plamondon, elle s'applique à tous les députés du Québec qui ont tous un pied à terre dans la région de la capitale nationale, parce qu'ils doivent être là pour siéger, à part ceux qui habitent dans des hôtels, mais ça, c'est une autre histoire. Mais juste pour te dire, donc, tu sais, vous savez, vous êtes de Québec, tu sais, la guerre Montréal-Québec, là, c'est difficile après de dire, ah, ben non, c'est pas du parachutage, surtout quand le gars, il était élu à Rosemont, là. Ça veut dire, il passe de Rosemont à Québec. Moi, je trouve que c'est faible comme argument de dire « Ah, ben oui, il habite à Québec quand il y a l'Assemblée, donc il connaît bien les enjeux. »
Mais Marissal a travaillé pour le Soleil aussi à l'époque, là, à Québec.
Oui.
Et
oui.
Après ça, il est monté à grosse presse. Là.
Oui. Non, mais c'est juste ça. Puis honnêtement, il va falloir que M. Marissal lui-même... Tu sais, moi, je ne veux pas le juger trop rapidement en termes de... OK, moi, je trouve que c'est une girouette, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va devoir qu'il s'explique les changements de position. Il va falloir qu'il s'explique aussi. Moi, la dernière entrevue que j'avais entendue, je pense que tout le monde en parle. Il disait qu'il était brûlé. Il disait qu'il voulait arrêter. Il disait même qu'il était prêt à retourner dans les médias puis qu'il cherchait un job, tu vois. Donc, on voit que tout a changé rapidement.
Mais là, on nous a dit, moi, j'ai parlé à des gens au PQ, on nous a dit, c'est un souverainiste. Je veux dire, il a quand même été à la presse puis il a contemplé l'idée pendant un temps de se lancer avec Trudeau au fédéral. Là. Quel genre
et puis il a voulu aller à la mairie de Montréal aussi.
Mais
là,
ouais,
ça veut dire au bout d'un moment, et je pense qu'il n'y a qu'un Martine Ouellette qui ne l'a pas appelé pour lui demander de se présenter avec elle.
Ah, peut-être, on est en son.
Hey, Charles Milliard, là, les Brownies, là, on a l'UPAC qui sort ce matin. Ben, en tout cas, selon la presse, là, l'UPAC puis le DGEQ. Est-ce que c'est réglé, ça? Là, tout ça pour ça, là?
Ben, moi, j'aimerais bien, honnêtement, de l'entendre de la bouche de l'UPAC directement ou du DGEQ directement. J'aime pas tellement ça quand on entend des sources, surtout quand, dans le passé, on a dit, bon, l'UPAC avait pas trop parlé, il n'y avait pas eu d'informations, on n'a pas rejoué dans le film, par exemple, de Guy Ouellet avec des sources comme ça qui sortaient. Moi, personnellement, avant de juger, j'aimerais l'entendre de la bouche, en tout cas de l'UPAC,
ouais.
Et savoir exactement c'est quoi, où est-ce qu'on en est. Moi, j'avais écrit un article au mois de juin dans Le Devoir où je disais, hey, à l'UPAC, ce serait bien que vous fassiez une mise à jour. On va avoir une campagne électorale. Si vous sortez avant ou pendant la campagne, on va dire que c'est arrangé avec le gars des vues. Si vous sortez après la campagne, on va dire on aurait dû le savoir avant de voter. Donc, tu vois que...
Ils doivent sortir, moment... là. C'est ça que tu dis. L'UPAC et DGEQ sortent avant que les élections soient déclenchées pour régler l'histoire des brownies. Là.
Ben oui, moi, c'était ça ma position au mois de juin en termes d'écoutez, si vous avez complété votre enquête, ben, sortez-la puis dites-le qu'on le sache avant l'élection. Surtout là, maintenant, l'élection n'est pas encore déclenchée, puis on dirait que le chat est sorti à moitié du sac avec cet article ce matin de la presse.
Bon, Carney qui est partout. Carney, hier, t'es à Québec au chantier des Vies. La semaine dernière, c'était Churchill Falls. Carney à gauche, Carney à droite. Clairement, on sent que les fédéraux sont nerveux. Hein? Ils aimeraient mieux avoir la CAQ que le Parti québécois. Là.
Ben, écoute, certaines personnes peuvent penser ça en disant, écoute, hier, M. Carney est allé très loin là, dans ses déclarations. Il a vanté le leadership de Mme Fréchette. La semaine dernière, la même chose à Churchill Falls.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est quand même beaucoup. Là. Il n'en manquait pas beaucoup pour dire, bon, ben, votez pour Mme Fréchette. Il ne l'a bien sûr pas dit, là, je vais être très, très clair. Mais disons qu'il était très enthousiaste concernant le leadership de Mme Fréchette. Je pense que c'est pour ça aussi que les libéraux de M. Milliard ont voulu très rapidement dire, bon, ben regardez, nous, on est parti luncher. Mais la réalité, M. Carney, sa cote de popularité continue à augmenter. On va voir ce qui va se passer dans l'élection partielle à Chicoutimi. Tu sais, pendant un moment, je me disais, oulala, ça va être difficile là, pour le Parti libéral. Tu sais, qu'on y avait toutes les rumeurs de concessions sur le lait, etc., etc. Maintenant que les négociations sont suspendues, je pense que le vrai véritable test pour M. Carney, on va le voir, en tout cas sa popularité dans cette élection de Chicoutimi. Puis oui, c'est vrai que ça aide aussi parce que vous m'avez parlé des 55 ans et plus. Des 55 ans et plus, ils aiment M. Carney, comme tu dirais, Frank.
Ouais.
Ben, ils aiment aussi Mme Fréchette. Donc, il y a un tout petit peu des vases communicants entre les deux.
Avec les tarifs, qu'est-ce que tu vois, toi? Tu vois-tu une entente avant le 8 septembre? Est-ce que tu vois quelque chose? On pourrait passer partiel puis attendre un peu dans la campagne électorale pour profiter à Mme Fréchette?
Je sais pas. Actuellement, ça va aussi dépendre de ce que je comprends. Les Américains sont en train de négocier avec le Brésil actuellement. Ils sont en train de négocier avec le Mexique. Il y a en tout cas encore des négociations. Donc, je me pose juste la question, est-ce qu'il y a un momentum ou en tout cas juste un espace dans l'agenda concernant des négociations avec le Canada? Mais moi, ce que je me dis, puis je pense que l'argument des conservateurs, et c'est pas parce que je suis un ancien conservateur que je dis ça, M. Carney doit quand même faire preuve de transparence envers le Parlement du Canada. Il doit quand même s'expliquer aux oppositions. T'sais, d'un côté, tu as Mme Fréchette qui a bien fait d'appeler M. Milliard, d'appeler M. Duhaime, d'appeler Rubagaza et Paul Saint-Pierre-Plamondon pour les briefer samedi. M. Carney n'a pas briefé, en tout cas, les oppositions à Ottawa. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir aussi qu'il fasse un petit peu preuve de transparence. Je ne remets pas en cause ce qu'il dit, mais je me suis dit, hey, la dernière fois, là, sur Gordie Howe, disons que c'était pas la première version qui était la bonne.
Ben voilà, c'est ça. C'est pas comme si c'était la première fois qu'il nous disait quelque chose puis il faisait le plus ou moins le contraire. Mais là, comment t'interprètes ça, toi? On a des sondages qui nous disent que 75% des gens sont d'accord avec Carney se retire de la négociation à cause que ce serait pas une bonne entente. Mais on sait pas c'est quoi l'entente. On la montre pas.
Ben, c'est pour ça. Puis je suis pas en train de dire que les Américains, ce qu'ils disent actuellement est la vérité. Je suis le premier qui dit que M. Trump, il ment 50 fois par jour. Mais je me dis, ce serait quand même bien que, du point de vue canadien... Tu sais, moi, quand j'étais au gouvernement, là, on faisait des briefings techniques, là, que la chef négociatrice, Janice Charrette, soit convoquée en comité parlementaire et que les députés puissent lui poser des questions. Je pense que c'est ça la base.
Là, il n'y a rien de ça, hein? Il n'y a rien. C'est silence radio.
Ben oui, moi, quand j'étais à Ottawa, là, puis on faisait des négociations, des accords de libre-échange, ben on faisait des briefages techniques avec l'équipe de négociation pour dire, attendez, là, écoutez-le directement de nos fonctionnaires si vous ne nous croyez pas.
Non, écoute, je sais pas, le manque beaucoup de transparence. On va regarder, voir si les aiguilles vont bouger. Rodolphe, tu es salué. Merci beaucoup de tes observations, puis on se reparle.
Merci beaucoup.
Salut.
Merci.
Bye-bye. Voilà, Rodolphe Osny. Notre chroniqueur politique qui est pas mal partout, notre Rodolphe. Hein?
Oh oui.
Il en fait. Mais il a toujours sa coche. Ce qui est intéressant avec Rodolphe, c'est qu'il était staff politique, donc il connaît les coulisses, hein, en arrière. en arrière. Là. C'est, des fois, il y a du théâtre en avant, là, mais en coulisses, ça brasse aussi. Là.
Oui.
On est là-dedans. Voilà. Hey, on ouvre les lignes après la pause. On va où, Frank?
Ben écoute, est-ce qu'on. Moi, je pense que ça a beaucoup, beaucoup réagi avec notre invité. Gabriel Coulombe, est-ce que ça a répondu à vos questions? Êtes-vous inquiet s'il y avait un référendum? Avez-vous peur de...
Y a-tu
de, c'est où qu'on s'en va? Je pense qu'il y a des gens qui ont été satisfaits. Il y en a qui trouvent que ça répond pas. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, appelez-nous, dites-nous pourquoi. Si vous pensez qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues...
Parce que là, on avait quand même 15 minutes pour
c'est
jaser,
ça, on n'avait pas 3 heures. C'est pas un podcast.
Ben, c'est ça. Là, on aurait pu débarrer pendant 2 heures, mais là, tu sais, l'histoire de la péréquation aussi, il y a un 14 milliards qui revient. Les autres disent que cet argent-là va revenir. Comprends, là, mais on sait que le fédéral en met plus que nous autres, on en paye. Il y aurait peut-être un manque à gagner là. Puis les taxes, puis les déficits. Il nous a dit, dans un Québec souverain, les premières années, il va y avoir des déficits. Attendez-vous pas à rien
couper.
D'autre. Là.
Il nous a dit qu'il fallait couper.
Aussi.
Ça change la position historique du PQ.
Oui, oui, c'est ça. Mais ils nous ont dit qu'ils allaient couper dans les prochaines années aussi s'ils tombent majoritaires là, au gouvernement, là.
Effectivement.
Hein? Santé Québec et autres, ils n'ont pas voulu ouvrir le jeu, là, mais d'après moi, ils vont en enlever aussi une couche. Fait que on veut vous entendre, 418-670-9098. On vient après la pause.
Couture dans le mid.
T'as quelque chose à dire? Tu veux réagir? 418-670-9098.
Radio X.